When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruault de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Rue 89 Bordeaux. On va parler d'une filière qui se diversifie. Ces viticulteurs qui ne misent plus tout sur le vin, c'est le titre de votre article. Bonjour Claire Mayer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes correspondante pour Le Monde et vous travaillez notamment pour Rue 89 Bordeaux. Dans cet article, vous vous êtes intéressée aux viticulteurs de Gironde qui en viennent, pour certains, à abandonner progressivement la culture exclusive de la vigne pour donner un second souffle à leur exploitation. Mais avant, un retour en arrière s'impose. De quelle période date cette pratique de la monoculture viticole en Gironde et c'était comment avant ?
Pour cet article, j'ai donc interrogé Philippe Abadie, qui est directeur du service entreprise à la Chambre d'agriculture de la Gironde, qui me l'a très bien expliqué. Donc, qui m'a dit que jusque dans les années 80, la majorité des exploitations viticoles, y compris les châteaux du Médoc, avaient d'autres productions, en particulier de l'élevage laitier. Comme me l'a dit Monsieur Abadie, les contraintes réglementaires sanitaires qui étaient imposées à l'élevage ont donc poussé à la spécialisation. Et aussi, les exploitations viticoles ont eu un contexte économique qui était beaucoup plus favorable pour le vin, qui a donc encouragé la monoculture viticole en Gironde.
Vous le dites, depuis quelques années, la crise environnementale affaiblit les viticulteurs. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, en effet, les viticulteurs doivent faire face à plusieurs types de crises. La crise environnementale, bien sûr, qui est liée à plusieurs maladies de la vigne, comme le mildiou, comme la grêle, comme la sécheresse, ou encore les coulures. La coulure, c'est une mauvaise fécondation de la fleur de la vigne qui entraîne donc la chute de la fleur. Sans parler évidemment du réchauffement climatique, qui ne permet pas aux viticulteurs de savoir à l'avance quelles seront les difficultés météorologiques qu'ils vont rencontrer, qui met en péril souvent leur exploitation.
Finalement, le contexte ne semble pas favorable et encourageant pour les viticulteurs de Gironde. Vous parlez d'une image du bordelais dégradée, de vente de vin de Bordeaux en baisse. Quel est le problème ?
En fait, l'image du vignoble bordelais a été dégradée. Il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté autour de l'utilisation des pesticides qui ont été notamment dénoncés dans l'émission Cache Investigation en 2016 puis en 2018, puisque l'équipe de Cache Investigation est venue deux fois sur le territoire girondin. Les journalistes de l'émission ont enquêté sur ces problématiques dans le vignoble. Pourtant, aujourd'hui, les certifications bio augmentent. 12% du vignoble bordelais en surface est certifié bio, quand la moyenne nationale est autour de 14%, donc une augmentation de 2% en 2019 qui est quand même assez notable. Les vins de Bordeaux sont également confrontés à ce qu'on appelle le Bordeaux bashing, c'est-à-dire qu'encore trop de restaurateurs et de cavistes bordelais, selon eux, proposent de manière insuffisante des vins de Bordeaux. C'est une pratique qui est déplorée notamment par les professionnels du vin, comme le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, le CIVB, et un propos qui m'a été aussi rapporté par la nouvelle adjointe au maire chargée du commerce, Sandrine Jacotot. De surcroît, les ventes de vin de Bordeaux sont en baisse depuis plusieurs années. Ils sont passés de 5 millions d'hectolitres à 3,8 millions lors de la dernière campagne viticole. Donc ça pose aussi un problème de surproduction. Et enfin, il ne faut pas oublier la fameuse taxe Trump, une taxe de surtaxe de 25% imposée par Trump sur les vins français exportés qui a lourdement touché le secteur.
Le constat est amer. La monoculture est-elle dangereuse pour les viticulteurs ? Est-ce qu'on doit imaginer que cette activité n'a plus d'avenir ?
Je pense, au regard de cette enquête, qu'il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que cette monoactivité inquiète particulièrement les petits producteurs qui peinent à écouler leur stock. Si une récolte est mauvaise, c'est tout un écosystème qui est en péril. Ce sont en plus souvent des exploitations familiales, un travail qui se transmet de génération en génération, que les enfants, petits-enfants, essaient de faire perdurer, de sauver. C'est compliqué de le savoir encore maintenant. I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Pour pallier ces problématiques, certains vignerons ont décidé de diversifier leur activité en se lançant dans d'autres productions. Lesquelles et dans quel but ?
Alors en fait, elles peuvent être diverses. Ça peut être des fruits, des légumes, des céréales et même de la bière pour un viticulteur que j'ai interrogé aussi. Le but est avant tout d'avoir une autre source de revenus lorsque la production de vin n'est pas suffisante, voire totalement inexploitable.
Alors vous évoquez notamment le projet audacieux d'un couple de viticulteurs dans le Blayais qui s'est lancé dans le brassage de bière. Pourquoi et comment est née cette idée et quels sont les avantages ?
En effet, j'ai interrogé Florian Arnaud et sa femme Winiver Franco qui sont en train de reprendre l'exploitation familiale. Mais face aux problématiques que rencontrent les viticulteurs dont j'ai parlé précédemment, notamment économiques et environnementaux, ils ont réfléchi ensemble à un plan B pour, en cas de mauvaise récolte côté vigne, pouvoir subsister côté brasserie. L'avantage principal que m'a expliqué Florian, c'est que la bière réserve moins de mauvaises surprises puisqu'elle est brassée dans un bâtiment qui jouxte l'exploitation, un bâtiment qui est fermé, donc qui n'est pas soumis aux aléas climatiques. C'est ça qui est intéressant aussi.
Mais du coup, la bière est-elle vouée à remplacer le vin dans cette exploitation ? Et ces deux productions sont-elles compatibles ?
Non, ce sont vraiment deux exploitations distinctes qui vont être faites en parallèle l'une de l'autre, dans deux bâtiments vraiment indépendants. Pour l'instant, Florian s'est formé à la brasserie Azimut, qui est une brasserie locale, bordelaise. Et le couple souhaite continuer à développer côté vigne des vins plus naturels, donc ils souhaitent aller plus loin dans cette exploitation et poursuivre le développement de la brasserie.
Alors, autre exemple avec le maraîchage et la culture du foin cette fois. Parlez-nous de la diversification de Laurent et Marie-Isabelle Guibert, propriétaires d'un château à Saint-Loubès, dans l'Entre-deux-Mers. Leur reprise de l'exploitation familiale n'est pas si vieille.
En effet, ils ont décidé de lancer plusieurs expérimentations, des pommes de terre, du foin, du blé et même des poules pondeuses. Laurent Guibert m'a expliqué qu'il était tout à fait conscient des risques de la monoculture bien avant de reprendre l'exploitation familiale. Donc quand ils l'ont repris en 2011, si au départ ils ont suivi ce qui était déjà en place, puisque ils m'ont expliqué que c'est toujours compliqué de tout recommencer depuis le début, au début on continue un peu ce qui a été mis en place par le père, le grand-père, mais ils ont quand même commencer à s'interroger et à vouloir lancer de nouvelles choses. Ils ont réfléchi, ils ont essayé de voir de quelle façon ils pouvaient, avec le matériel qu'ils avaient aussi, se faire, ce qu'ils pouvaient tenter d'expérimenter. Et puis, comme tous ceux que j'ai interrogés, ils se sont dit qu'en venant acheter des produits, que ce soit de la farine, du foin, des œufs, on pourrait peut-être leur prendre du vin. Et c'était aussi une façon de faire connaître leur exploitation.
Et alors, pourquoi la culture du foin ? D'où vient cette initiative ?
Déjà, ils ont essayé de voir quelles étaient les exploitations autour de la leur. Il y a plusieurs élevages de chevaux près de leur exploitation et se sont dit qu'il pourrait peut-être y avoir une demande. Et surtout, ils avaient donc le matériel nécessaire et ça leur permettait de ne pas investir de nouveau et de ne pas avoir de coûts supplémentaires pour tenter cette expérimentation. Parce que le but, c'est quand même de ne pas perdre, de ne pas investir trop pour quelque chose dont ils sont au final pas sûrs.
L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains, et le vin quand il convient. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la mer qui me revient, je veux l'eau des marins.
Certaines productions se retrouvent même dans des AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou à la cantine du village. C'est le cas des céréales et des légumes bio cultivés par Aude Richard, viticultrice à Nérigent, dans l'Entre-deux-Mers. Selon elle, le maraîchage est plus rentable que la viticulture. Pourquoi ?
En fait, selon Aude Richard, les légumes représentent moins de surprises que la vigne. Comme me disait Aude, son plus gros problème, c'est que les viticulteurs n'ont aucune sécurité par rapport aux conditions météorologiques pour le vignoble. Elle me disait, je cite, que sur les 10 dernières années, j'ai fait 3 ou 4 récoltes normales, alors que justement, avec les légumes, la rotation est plus courte. Si jamais elle rate une production, quelques mois après, de nouveaux légumes sortent de terre. Sur un autre légume, elle peut tenter de nouvelles expérimentations, donc elle produit davantage et peut donc aussi diffuser davantage également.
Finalement, le processus de diversification a été enclenché relativement vite dans le cas d'Aude Richard.
Oui, absolument, sans doute peut-être parce que son père était lui-même maraîcher, connaissait très bien déjà cette pratique avant de reprendre l'exploitation familiale, donc elle-même connaissait déjà le fonctionnement. À l'époque de son grand-père, il y avait déjà de la diversification sur leurs terres, donc en fait elle a été élevée aussi dans cette notion de que la diversification était importante et connaissait déjà ses rouages.
Vous l'évoquez dans votre article, Claire, une des solutions amenées par un bon nombre de viticultrices et viticulteurs que vous avez rencontrés, c'est l'arrachage de la vigne et donc la diminution de sa surface. Pourquoi ?
En fait, justement, on diminue la surface de la vigne pour installer une nouvelle culture. Donc, c'est comme ça qu'on arrache finalement des vignes. On enlève ce qui n'est pas rentable pour installer du maraîchage ou une autre culture qui va l'être davantage. Donc, à la place de la production de vin, on va produire des légumes ou autre chose qui aura beaucoup plus d'impact économique sur l'exploitation.
De quelles aides bénéficient les viticultrices et les viticulteurs qui souhaitent diversifier leur activité ?
Alors, ils connaissent surtout le soutien de la Chambre d'agriculture qui reçoit de plus en plus de demandes et se prépare davantage à accompagner les jeunes viticulteurs et viticultrices qui souhaitent se diversifier. Donc la Chambre d'agriculture vient sur place, évalue avec le producteur les possibilités, l'aide à calculer les coûts, les aides qui sont possibles, comment obtenir un prêt supplémentaire, le matériel, etc. Pour l'instant, ils sont principalement appuyés par la Chambre d'agriculture.
Est-ce que les viticultrices et viticulteurs qui amorcent cette diversification sont nombreux aujourd'hui ou au contraire, est-ce que cette pratique est encore rare ?
Alors c'est vraiment une pratique qui tend à se développer, mais pour l'instant c'est assez difficile d'avoir des chiffres. On n'a pas encore assez de recul puisque c'est assez récent pour savoir quelle est l'ampleur du phénomène. Comme me l'a expliqué donc Philippe Abadi de la Chambre d'agriculture, c'est un phénomène qui est récent et pressant. C'est ce que eux ressentent puis qu'ils ont de plus en plus de demandes au sein de la Chambre d'agriculture. En revanche, le CIVB était moins d'accord avec ça puisque les viticulteurs qu'ils connaissent ont davantage de diversification au cœur de leur exploitation. C'est-à-dire ils ouvrent une chambre d'hôte ou ils vont développer du jus de raisin, tout ce qui est lié à leur propre exploitation, qui va les aider aussi à vendre leur vin, à faire connaître leur vin. Une chose est sûre, les problématiques environnementales et économiques vont se poursuivre malheureusement. Les contraintes seront toujours présentes pour les viticulteurs et vont être de plus en plus difficiles et donc les pousser davantage à se poser la question ou à se lancer.
Vous terminez votre article en évoquant la joualle. Je vous avoue que je n'avais jamais entendu ce terme et que j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que c'est ?
Effectivement, ça ne m'étonne pas parce que c'est un procédé qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un système ancestral de culture écologique qui était pratiqué notamment en Europe et dans le sud-ouest de la France, donc dans notre région, qui consiste à associer donc sur une même parcelle de vigne des arbres fruitiers intercalés avec la vigne et d'autres cultures en fait. Les cultures sont intercalées, donc qui laissent finalement place à la biodiversité qui est plus libre, si je puis dire, et qui se régulait davantage.
Avant de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce changement opéré par certaines viticultrices et viticulteurs. Est-ce que selon vous, cette diversification d'activités est essentielle à leur survie ou au contraire, est-ce que la monoculture a encore de beaux jours devant elle en Gironde ?
Je pense que c'est difficile d'y répondre. Je pense que c'est effectivement encore trop tôt. C'est un phénomène qui est assez récent et qui est en train de se lancer. Malheureusement, les problématiques environnementales et économiques vont être de plus en plus nombreux, donc pousser certainement davantage de viticultrices et de viticulteurs à se lancer. Mais c'est vrai qu'en Gironde, on a toute une génération de viticulteurs plus âgés qui vont prendre leur retraite, laisser la place à des plus jeunes. C'est une proportion assez importante qui est autour de 20% visiblement. Donc peut-être que les jeunes viticulteurs vont essayer de trouver des nouvelles idées pour se réinventer et surtout pouvoir sauver leurs exploitations et en les sauvant, donc en se diversifiant.
Merci beaucoup Claire Mayer d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je recommande la lecture de votre article. Il s'appelle « Ces viticulteurs qui ne misent plus tout sur le vin » et il est à retrouver sur le site de Rue 89 Bordeaux.
Merci Marion Ruot. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à Anne-Charlotte Delange et Mathilde Deleuil qui ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.